Canale Inter. Le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Actualité, histoire, grands entretiens. Au micro, des podcasts et live 100% Nerazzurri, Cédric Canale.
Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Point Mercato. Cette semaine, on a attendu mardi pour le faire, puisqu'il y avait ce match qui vient tout juste de se terminer entre l'Inter et le PSG. On a donc préféré attendre quelques heures de plus et ainsi commencer le programme de ce podcast par un rapide retour sur cette rencontre. Alors Simone Inzaghi avait choisi bien sûr un 3-5-2 et ça ressemblait plutôt au 3-5-2 titulaire, puisque Hendrik Mkhitaryan était de retour après une petite alerte physique avant le match contre Al Nassr. Il avait été préservé, l'Arménien cette fois-ci, donc il était bien titulaire. Et puis devant, le duo Lautaro-Thuram. Il s'agissait du deuxième réel match amical, le deuxième match de cette tournée au Japon, après le match nul 1-1 contre Al Nassr, but de Davide Fratesi. Donc le Paris Saint-Germain, et puis ensuite l'Inter retournera en Italie pour poursuivre la préparation. Ensuite, il y aura la rencontre le 9 août contre le Red Bull Salzbourg, là-bas. Et enfin, un dernier match amical avant de commencer le championnat contre Monza. Ce dernier match amical, ce sera le 13 août à Ferrara contre l'équipe albanaise d'Egnatia, qui a été éliminée lors du tour préliminaire de Conference League. Voilà pour le programme, donc cette Inter-PSG. Succès donc de buts à 1, l'Inter qui a renversé la partie en 2 minutes en seconde période. Tout d'ailleurs c'est décidé en seconde période. Le but de Vitinha qui a permis au PSG de mener, frappe lointaine puissante du milieu portugais, laissé libre. Stankovic là-dessus ne peut pas grand-chose, un petit peu comme contre Al Nassr, le jeune gardien qui est battu. Pour le reste, il m'a vraiment plu, Filip Stankovic. Je dirais que c'est l'une des deux bonnes notes vraiment de cette tournée. Il assume pour le moment ce rôle de titulaire en attendant l'arrivée d'un gardien, on y reviendra dans ce podcast, mais voilà, il montre en tout cas qu'il a les épaules pour porter le maillot de l'Inter. Certes, ce sont seulement des matchs amicaux, mais tout de même contre le PSG, des Parisiens qui ont eu le ballon, grande possession, donc quand on est gardien, on a besoin de toujours être concentré aux aguets et notamment au pied, partie vraiment propre de la part du gardien dans la construction. Et on sait que c'est de plus en plus important dans le foot et dans le jeu de Simone Inzaghi. André Onana qui a rapidement marqué de son empreinte l'Inter grâce notamment, outre sa personnalité et ses arrêts, à son excellent jeu au pied. La deuxième bonne surprise, il avait marqué contre Al Nassr, deux passes décisives cette fois-ci en jouant 35 minutes, Davide Fratesi, qui montre lui aussi de la personnalité, de la qualité, cette capacité à s'insérer, à courir vers l'avant. Et là, donc, il était passeur décisif pour Esposito, qui a égalisé, et deux minutes plus tard, pour Sensi, donc, qui a offert cette victoire en match amical. Donc, c'est, on va dire, victoire de prestige, mais sans réelle valeur, puisque les équipes sont avant tout là pour travailler. Mais victoire tout de même, Esposito et Sensi, buteurs. Les deux joueurs qui devraient logiquement partir lorsqu'un milieu et un attaquant seront recrutés dans les prochains jours. On aura l'occasion d'y revenir dans ce numéro. Donc Fratesi, vraiment bien, encore une fois, intéressant. Cuadrado aussi, lors de son entrée, a montré de bonnes choses à droite. L'écart, d'un point de vue technique, avec Dumfries est abyssal. C'est impossible, une porte ouverte de le dire, mais voilà, Juan Cuadrado. Alors, il y a l'homme, il y a son passé à la Juventus, d'accord. Si on regarde juste le joueur, même vieillissant, c'est vraiment un profil qui va être très intéressant pour le couloir droit de l'Inter cette saison. Un profil qui manque, un dribbleur qui sait sauter son adversaire et centrer. Donc, il s'est d'ailleurs offert une belle occasion avec, c'était Kurzawa face à lui, donc c'était pas forcément le défenseur le plus difficile, mais tout de même un beau mouvement, notamment de sa part. Et puis, il est aussi impliqué sur le deuxième but. Voilà pour notamment les points positifs. Pour ce qui est de Marcus Thuram aussi, sur les 55 minutes qu'il a passées sur la pelouse, on l'a vu être recherché assez souvent en profondeur, parfois aussi dos au but. On sent qu'il a besoin de s'habituer à ses partenaires, à cette organisation. Lui, il avait l'habitude de jouer ailier, puis numéro 9 en Allemagne. Là, il doit composer dans une attaque à deux têtes. C'est un peu différent, les mouvements avec Lautaro. On sent qu'ils ne se connaissent pas encore, c'est normal. Lautaro, un petit peu emprunté aussi, le capitaine Nerazzurro aujourd'hui. Donc, voilà, ça va venir. Ces matchs-là sont faits pour ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est en plein cœur de la préparation, que le premier bloc physique a été assez important, que l'Inter commencera le championnat une semaine après le PSG, donc était un petit peu moins prêt aussi, logiquement. Donc, ce sont tous ces points-là qui peuvent permettre de voir de cette rencontre qui n'a pas été forcément particulièrement enthousiasmante, plutôt des choses positives. Bonne heure et demie de travail. Pour le reste, on a noté aussi que Bissek est entré une nouvelle fois axial droit et Matteo Darmian a fini la rencontre axial gauche. Là aussi, on verra pour l'identité du coup du dernier défenseur ce que ça donnera à Bissek qui travaille exclusivement axial droit. Et un match qui a permis d'ailleurs de voir le nouveau maillot extérieur qui est sorti, qui a été annoncé ce lundi, qui est déjà en vente aussi bien dans les boutiques à Milan que sur le site internet de l'Inter. Maillot qui semble plutôt recueillir les suffrages. D'ailleurs, sur Twitter comme ça, hier en passant à la boutique. Derrière, je vous ai demandé ce que vous en pensiez des maillots, de donner une note aux deux maillots. Personnellement, j'ai mis 7,5, je vous l'explique, 6 pour le maillot domicile. Je ne suis pas fan, notamment tout le haut et les manches, que je trouve un peu bizarre. Et puis le contraste entre le blanc et du sponsor Paramount et le jaune des logos Inter et Nike. Et par contre, 9 au maillot extérieur, peut-être un petit peu simple, peu de détails, mais je trouve cette simplicité, cette pureté vraiment réussie. Et puis ces deux bandes, bleu et noir qui se croisent. C'est vraiment une bonne idée avec un sponsor qui est assez discret, puisqu'il n'y a pas le logo Paramount Plus, il y a juste l'écriture. Donc, voilà, ça m'a plutôt plu. Vous pouvez, notamment sur Twitter, vous aussi, donner votre avis. Passons désormais au dossier central, bien sûr, de ce podcast, puisque cet été, on parle Mercato sur Canal Inter. Alors, par rapport à la semaine dernière, eh bien, pas de nouveautés officielles, pas d'arrivée. Niveau départ, Radu à Bournemouth, c'est fait, mais voilà, ça ne change pas vraiment les équilibres, pas vraiment de départ non plus. Donc, ce qui devrait se conclure au retour de la tournée au Japon de l'Inter, Samardzic, le milieu de l'Udinese, le jeune milieu né en Allemagne et d'origine serbe et qui a pris la nationalité sportive serbe, eh bien, il devrait signer cette semaine. Il y a un accord entre 15 et 20 millions d'euros plus bonus. Et le jeune Fabian, qui de son côté va aller à l'Udinese, transféré avec, normalement, un droit de rachat en 2025. On parle de 6 millions pour le prix du joueur et une prime et un droit de rachat à 12 millions d'euros. On sait avec les médias italiens, parfois, il y a du vrai, il y a du faux. Mais voilà, en tout cas, le mécanisme serait celui-ci. Samardzic, donc, arriverait à l'Inter cette semaine. Fabian, lui, de son côté, irait à l'Udinese. Deux transferts indépendants, en un sens. Et puis, donc, Fabian aurait la possibilité de revenir. Samardzic, selon moi, bon coup pour compléter le milieu. Donc, il sera Mezzala, sans doute, il était plutôt Mezzala droit dans le 3-5-2 de Sotil à l'Udinese la saison passée. Il n'était pas toujours titulaire. D'ailleurs, c'est un joueur qui a de très très grandes qualités, qui est technique, qui a un pied gauche puissant et aussi raffiné. Donc, vraiment très beau joueur. Il manque encore d'implication dans la phase défensive. Il va falloir qu'il s'y mette parce qu'on sait que c'est important pour Simone Inzaghi, des questions d'équilibre. Donc, voilà, mais il va donc intégrer. On va voir s'il sera plutôt mis à la droite et donc être le remplaçant de Barella ou s'il sera plus à gauche et jouer le poste avec Mkhitaryan, sachant qu'il y a aussi, bien sûr, Fratesi. Donc, ça fait quatre joueurs pour deux postes vraiment de qualité et quatre profils assez différents. Donc, assez intéressant. Et puis Lazar Samardzic, qui a 21 ans, donc, peut aussi jouer, bien sûr, trequartista, sorte de numéro 10. Donc, ça donnerait la possibilité à l'Inter aussi de changer légèrement son organisation et passer en 3-4-2-1 ou en 3-5-1-1 avec Samardzic derrière l'attaquant. Donc, c'est aussi une possibilité. Et puis, alors, pas tout de suite, parce que je vous disais que sur la phase défensive, sur la récupération, sur le pressing, il est pas encore prêt, selon moi, mais d'ici 2, 3, 4 ans, le voir peut-être reculer en regista, ça ne me surprendrait pas parce qu'il a une telle qualité technique et une telle vision du jeu. Je le vois bien aussi dans ce rôle. Donc, voilà, milieu de terrain, selon moi, qui peut jouer vraiment partout et qui pourra surtout jouer partout. Donc, excellent investissement de la part de l'Inter. Et je pense qu'à ce prix-là, et vu le potentiel, c'est vraiment beaucoup réalisé par Marotta et Ausilio. Et puis, ça confirme aussi l'envie de rajeunissement, hein, puisque Bissek est arrivé, Fratesi, à part Cuadrado, qui a 35 ans, tous les autres, et peut-être Sommer, tous les autres recrues sont vraiment des joueurs jeunes, alors que beaucoup de joueurs de plus de 30 ans, hein, Andanovic, D'Ambrosio, Dzeko notamment, sont partis. Donc voilà, il y a cette envie aussi de rajeunir. Donc à voir aussi ce que Simone Inzaghi, encore une fois, fera des jeunes. Il a donné peu d'espace à Belanova et à Aslani la saison passée. On verra si c'était plus une question de qualité ou plus vraiment une question de mentalité de la part de l'entraîneur. Là, il a un effectif plus jeune. Et on peut espérer voir Aslani avec plus d'espace cette saison. On peut aussi espérer, si Samardzic signe bel et bien, lui aussi le voir avec pas mal d'espace au sein du milieu de terrain de l'Inter. 1m84, alors, parce que le milieu de terrain manque de hauteur, manque de centimètres depuis le départ de Gallardini. C'est la seule qualité qu'on pouvait lui accorder. C'est vrai que ça manque un peu de physique. Alors, il n'est pas très grand, mais bon, il va ajouter quand même un petit peu de centimètres au milieu de terrain, surtout que son arrivée devrait confirmer le départ de Stefano Sensi. Il lui reste un an de contrat, et donc là, il se retrouve désormais septième milieu de terrain, donc l'Inter va certainement chercher de le transférer, ou à défaut, de le prêter avec option d'achat, et dans ce cas-là, son contrat serait sûrement prolongé d'une saison, pour éviter qu'il ne parte libre en juin 2024. Et puisque l'on parle des joueurs qui devraient partir, Lazzaro, c'est la même chose avec l'arrivée de Cuadrado. Il se retrouve troisième piston droit, donc lui aussi en fin de contrat en 2024 devrait partir. Salcedo, le jeune attaquant, lui aussi fin de contrat en 2024, même cas, il n'a pas de place, hein. D'ailleurs lui ne fait même pas la tournée, si Sensi et Lazzaro sont de la tournée, lui non, donc voilà, pareil, les dirigeants vont essayer de trouver une place. Agoumé, qui ne fait pas la tournée, mais un contrat plus long, lui aussi sûrement en prêt. Et puis ce sera la même chose pour Esposito, très certainement. Dès qu'un attaquant sera recruté, il sera sans doute lui aussi prêté. Attaquant, ben on y passe. Alors, nouveauté finalement, Scamacca aurait pris la tête de la course à l'attaque de l'Inter. Vous le savez, Lautaro et Thuram, c'est sûr. Correa pourrait partir, il pourrait ouvrir son intérêt à des offres venant d'Arabie Saoudite, si jamais en Europe ça ne bouge pas. A priori, il n'est pas pressé, l'attaquant argentin, mais il pourrait effectivement, pendant le mois d'août, partir. Et donc, ça demanderait le recrutement d'un deuxième attaquant. Mais bon, pour l'instant, du côté de l'Inter, on cherche le remplaçant de Romelu Lukaku. La case qui était prévue pour Romelu Lukaku. Alors, Scamacca serait devenu la priorité. Ça pourrait être un prêt avec obligation d'achat, l'ensemble entre 25 et 30 millions d'euros. Alors, avantage, c'est un joueur physique. On parlait de centimètres au milieu de terrain tout à l'heure. Lui, il apporterait des centimètres devant, en plus de Thuram qui apporte aussi des centimètres. Il y a aussi des centimètres derrière avec Bastoni, avec Acerbi, avec Bissek aussi qui vient d'arriver. Donc, c'est bien sûr un profil différent d'Inzeko. Il est moins technique. C'est un profil différent de Romelu Lukaku. Il est moins puissant, moins physique. C'est peut-être un mix des deux un peu. Il doit encore bien sûr progresser pour arriver aux qualités de ces deux joueurs-là. Mais je vous l'avais dit lors d'un précédent podcast, j'étais un peu surpris que son nom ne sorte pas plus que cela, car je trouvais que son profil répondait à pas mal de cases. Il connaît la Serie A, ce qui pour Simone Inzaghi, on le sait, est assez important. C'est aussi pour ça qu'il militait pour Morata. A priori, ça ne se fera pas pour l'Espagnol, mais Morata connaît la Serie A. Il a une expérience internationale, donc ça jouait dans la faveur du joueur prêt tout de suite. Scamacca est à peu près prêt. Est-ce qu'il est prêt pour un top club ? On ne sait pas, mais en tout cas, prêt pour la Serie A, oui. L'Europe, il n'a pas joué la Ligue des Champions, mais il a joué la Conference League la saison passée, donc il a déjà un petit peu touché les compétitions européennes. Et donc, ça semble être la piste privilégiée. Alors, on verra si c'est un coup à la Marotta de mettre l'attention sur un joueur pour finalement conclure. Balogun, par exemple, qui semblait la priorité. Arsenal ne semble pas disposé à aller en deçà des 45 millions d'euros, plus ou moins. Une somme qui est jugée trop élevée comme investissement pour l'Inter. Donc, est-ce que Scamacca est un coup pour permettre de montrer à Arsenal, nous, on a un autre joueur, donc ben, gardez Balogun. Et comme Balogun, eh bien, on le voit lors des matchs amicaux, ne joue pas. Arsenal, il est en dehors du projet d'Arteta. On verra si Scamacca est un écran de fumée ou si c'est réellement le premier choix. Jonathan David était aussi évoqué ce mardi matin par la Gazzetta, mais c'est un joueur qui me plairait plus par rapport à Balogun parce qu'il y a quand même plus de certitude. Lui a plusieurs saisons pleines de Ligue 1 avec Lille. Il a joué la Ligue des Champions. Donc, c'est un profil sûrement voilà, un peu plus fini, en quelque sorte. Balogun a montré d'excellentes choses. Un profil très intéressant, mais c'est un peu moins numéro 9. C'est un joueur qui est un peu plus fuyant. Et dans le 3-5-2, je pense qu'il manque quand même d'un vrai 9 qui peut servir de point d'appui. Voilà pour l'attaque. On a parlé du milieu. En défense, il manque toujours l'accès à droit, mais a priori, ce n'est pas la priorité. Ce sera plus une opportunité de fin de mercato. On va terminer avec le poste de gardien. Toujours pas de Yann Sommer. Le gardien suisse a même été titulaire et a joué les 90 minutes du dernier match amical du Bayern Munich. Manuel Neuer n'a toujours pas donné de garantie physique. Et donc, Sommer n'est pas libéré par son club, puisque le Bayern, qui cherche avant tout à conclure Harry Kane pour son attaque, eh bien, cherche aussi un deuxième gardien. C'est compliqué. Raya, qui semble être la priorité, s'éloigne. Désormais, c'est Bounou de Séville qui est évoqué. Mais tant que le Bayern n'aura pas de gardien numéro 1 bis, eh bien, Yann Sommer ne sera pas libéré. Donc, à voir ce que fera l'Inter, attendre encore, sachant qu'on est désormais à moins de 3 semaines du début du championnat. Donc, ça devient un petit peu urgent tout de même d'avoir un gardien titulaire qui puisse s'habituer à sa défense, même si Yann Sommer est un gardien expérimenté, donc ça pose peut-être un peu moins de problèmes, mais il ne connaît pas la Serie A, il ne connaît pas ses coéquipiers, donc plus tôt il sera à l'Inter, mieux ce sera, s'il doit venir encore une fois. Trebin, ça semble être mis pour le moment au second plan, il lui reste un an de contrat, donc l'Inter pourrait aussi attendre et le prendre gratuit l'été prochain, et du coup garder Philippe Stankovic par exemple comme numéro 2, lui qui est titulaire depuis le début de la préparation en attendant l'arrivée d'un gardien. On a aussi fait le tour au niveau du mercato. Pour terminer, un mot très rapide sur le stade. Là aussi, ça bouge. San Siro devrait être protégé dans les prochains jours. L'Inter et Milan ne se font plus guère d'illusions. La mairie de Milan non plus. Le deuxième anneau de San Siro protégé, ça veut dire que le stade ne pourrait pas être détruit. Ça veut dire qu'un nouveau San Siro construit à côté ne pourrait pas se faire, et donc le projet de l'Inter et de Milan de faire un nouveau San Siro ensemble serait ainsi enterré, après 4 ans tout de même de diverses négociations et de millions d'euros dépensés aussi dans les projets. Mais bon, c'est comme ça, la bureaucratie italienne. Donc du coup, Milan est déjà parti depuis quelques mois sur San Donato pour faire un stade donc au sud-est de Milan. Du côté de l'Inter, c'est Rozzano, donc c'était la piste évoquée déjà au printemps, qui se confirme, puisque l'Inter a signé bien un droit exclusif jusqu'au 30 avril 2024 pour évaluer la possibilité de faire un stade sur la zone au nord de Rozzano, qui est proche d'Assago. Je vous dis ça pour ceux qui ne connaissent pas bien Milan. Assago est la fin de la ligne M2 du métro, la ligne verte, où il y a le forum d'Assago, où joue l'Olimpia Milano, le club de basket de Giorgio Armani, et où il y a aussi des concerts. Et du coup, on est à 500-600 mètres à peu près à pied du métro où le stade pourrait être construit. Donc ça veut dire que l'accès est déjà assuré en métro. Il y a aussi le périphérique ouest de Milan avec une sortie qui n'est pas très loin. On peut imaginer qu'il y aura pas mal de parkings aussi construits aux alentours. Il y a déjà pas mal de supermarchés justement au niveau du forum d'Assago aux alentours. Ça veut dire que le projet de stade devrait surtout être avec boutiques, musées, mais pas forcément un projet énorme comme c'était le cas avec Milan, où on parlait d'un projet à 1,2 milliard à peu près d'euros. Alors on serait peut-être un petit peu en dessous si le stade devait se concrétiser. Dans un plan idéal, ce serait début des travaux en 2025, et donc inauguration entre 2028 et 2029. Que ce soit Suning, propriétaire du club, ou que le club soit vendu, petite parenthèse, le droit exclusif est jusqu'au 30 avril 2024, et le prêt à rembourser à Octree est en mai 2024. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Voilà, peut-être que les choses sont un petit peu liées aussi de ce niveau-là. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'Inter a besoin d'un nouveau stade pour une question de recettes, même si les recettes ont été très bonnes la saison passée et au-delà des espérances, aussi grâce à la Ligue des Champions. Si l'Inter va continuer à grandir, l'Inter a besoin de faire plus de recettes au niveau de son stade. Restructurer San Siro coûterait beaucoup et voudrait dire jouer plusieurs saisons avec un stade à capacité réduite et donc perdre de l'argent. Donc la voie d'un nouveau stade sera sûrement aussi le choix de l'Inter, comme ça a été le choix affirmé par l'AC Milan de Cardinal. Et bien sûr que le stade coûte 700, 800, 900 millions d'euros. On verra les projets. C'est Popoulos d'ailleurs qui va travailler avec l'Inter. Popoulos qui avait déjà réalisé la cathédrale du nouveau San Siro. Et donc l'Inter qui conserve le même partenaire architectural pour ce projet de nouveau stade. Qu'importe le coût, bien sûr, c'est pas Suning ou c'est pas l'Inter qui va payer les 800, 900 millions d'euros comme ça, qui va aller sortir. Il y aura des systèmes de financement qu'on appelle véhicules ad hoc, avec des sociétés qui du coup, bien sûr, mettent l'argent en quelque sorte pour financer et qui ensuite se remboursent au fil des années avec les entrées, une partie en tout cas, des entrées sur le stade. Mais voilà, il y aura aussi le naming du stade qui permettra d'avoir des entrées supplémentaires, enfin, plein de choses comme ça. Mais voilà, pour ceux qui disent « Mais comment l'Inter va encore s'endetter de 900 millions d'euros ?» Non, non, ce sera pas le cas. Ce sont des systèmes, des montages financiers qui sont utilisés dans l'immobilier par des grands groupes et qui sont utilisés aussi par de nombreux clubs européens lorsqu'ils font de nouveaux stades, car peu de clubs ont la capacité de sortir comme ça ou de 800 millions d'euros pour faire un stade. Voilà donc pour les différents dossiers. On se retrouve la semaine prochaine. Giuliano reviendra la semaine prochaine, c'est promis. Moi, je vous souhaite, pendant un instant, une excellente semaine. Et pour ceux qui ont cette chance-là, d'excellentes vacances. Ciao, ciao!
C'était Canal Inter avec Cédric Canalé. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast et YouTube. Alla prossima, fratelli!